Il est 7h.
Nous proposons, nous, à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines pour repartir sur des bonnes bases, pour pouvoir, après, s'organiser.
Assez de demi-mesures, dit l'équipe d'Anne Hidalgo. Elle veut un confinement strict à Paris pour 3 semaines. Elle espère pouvoir rouvrir ensuite les bars et restaurants. Le gouvernement, lui, préfère encore temporiser. 20 départements en vigilance renforcée et l'espoir d'un retour à la vie normale pour le printemps grâce à la vaccination. Dans ce journal, une ligne historique fermée il y a 3 ans, le train de nuit est donc de retour entre Paris et Nice. Et puis, vous brûlez peut-être de passion pour les Jeux Olympiques. Une torche olympique de 1968 est à vendre aux enchères en Bretagne. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, je vais vous parler de La Poste. Le courrier s'effondre, c'est tout un pan historique de l'activité de La Poste qui est en train de disparaître et c'est un défi existentiel pour le groupe public.
Le regard international de Vincent Hervouet avant l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Moi je vais faire l'éloge des défaites dans le sport ce matin. C'est important de perdre, vous savez.
Oui, oui, pourquoi pas, les rois de la lose ce matin, si j'ai bien compris. Nous retrouverons ensuite Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est donc avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gouvernement est donc trop mou. Il faut aller plus vite et plus fort pour casser la progression du virus. C'est un peu le sens de l'annonce de la mairie de Paris tard hier soir. Placée en vigilance renforcée comme 19 autres départements, en attendant le point d'étape la semaine prochaine, la capitale va demander à la préfecture un confinement strict, dès maintenant et pour 3 semaines. Écoutez l'adjointe d'Anne Hidalgo à la santé, Anne Souiris sur Europe 1.
L'idée est simple, hein, c'est de se dire qu'à partir du moment où, depuis la deuxième vague, on n'a pas du tout réussi le pari qui était fait avec un semi-confinement, d'arriver à faire en sorte qu'on puisse retourner à un état à peu près normal. Donc, à partir de ce moment-là, nous proposons, nous, à Paris, de faire un vrai confinement de 3 semaines. Proposer un confinement de 3 semaines. Pendant ce temps-là, on réorganisera la suite des événements pour repartir sur des bonnes bases et avoir cette fois-ci une vraie préparation, une vraie planification de la suite pour que ce virus qui va rester encore jusqu'à la fin d'une vraie vaccination, une vraie période de vaccination pour tous, et bien pendant cette période-là, on pourra vraiment préparer, faire avec les gens, faire des écoles qui fonctionnent, faire aussi, avoir aussi une vie culturelle fonctionnelle. On préfère y aller pour pouvoir après s'organiser.
L'adjointe à la santé de la mairie de Paris, Jean-Rémy Baudeau, l'équipe d'Anne Hidalgo joue donc la confrontation. C'est un peu qui sera le plus responsable face à la pandémie.
Oui, et c'est peu dire que la proposition d'Anne Hidalgo a été fraîchement accueillie hier soir, car le Premier ministre venait à peine d'annoncer des concertations dans les départements à risque. À Matignon, on juge donc que cette proposition arrive trop tôt. Les discussions n'ont même pas commencé, renchérait un conseiller à l'Élysée. Au sein de l'exécutif, on rappelle néanmoins que Paris est aussi un département et qu'une telle décision serait prise à la préfecture, pas à l'hôtel de ville, fermer le banc. Le gouvernement aimerait par contre ne pas faire de Paris et de l'Île-de-France un cas particulier. Il n'y a pas de différence épidémique avec les autres départements en rouge, précise le ministère de la Santé. Pour autant, Paris a une charge symbolique, économique et géographique à part. En privé, Jean Castex le reconnaît, confiner Paris donnerait lieu à des réflexions sur les déplacements, les transports. Paris est un nœud logistique et ferroviaire. La pression monte donc pour les habitants de la capitale et de sa région. Ils ont une semaine pour éviter une flambée du Covid. Sans quoi, un confinement au week-end, comme à Nice ou à Dunkerque, n'est plus exclu.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et Théo Manval, on retient aussi cette perspective qu'a voulu donner le Premier ministre hier soir. L'espoir d'un retour à la vie normale à la fin du printemps.
Oui, grâce à la campagne de vaccination, elle sera ouverte aux plus de 65 ans d'ici début avril, a dit Jean Castex. Et d'ici la mi-mai, tous les Français de plus de 50 ans se seront vus proposer une première injection. La mi-mai, c'est dans 2 mois et demi.
Ça, c'est s'il n'y a pas de nouveau retard dans les doses. Les patrons des laboratoires pharmaceutiques étaient auditionnés hier par les eurodéputés.
Qui les ont mis face justement à ces retards essuyés depuis le début de l'année. Isabelle Horry, des géants pharmaceutiques dans leurs petits souliers.
Oui, l'heure n'était pas à l'arrogance pour ces grands patrons. Ils ont joué profil bas pour tenter de convaincre de leur bonne foi. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a ainsi expliqué que la production de vaccins s'effectue à flux tendu, sans stock, à la merci du moindre imprévu, comme quand une pompe s'est cassée sur l'un de ses sites.
Les équipes y ont passé plusieurs jours, des nuits aussi. Mais les jours perdus à réparer la pompe et à faire homologuer la nouvelle pompe, eh bien ces jours-là sont perdus pour toujours. Comme nous produisons à flux tendu, on ne peut peut jamais rattraper.
Le plus attaqué, c'est le patron d'AstraZeneca. Au premier trimestre, il a réduit les livraisons de 60% dans l'Union européenne. Les eurodéputés ne comprennent pas pourquoi les Britanniques, eux, sont livrés normalement. Pascal Soriot plaide non coupable.
Le gouvernement britannique a financé le développement du vaccin de l'Université d'Oxford et sa production. Donc il avait déjà conclu des contrats avec des sites de production et quand nous avons signé avec Oxford, on nous a notifié ces engagements préexistants.
Les élus sont déçus, ils espéraient des garanties sur les livraisons des mois à venir, mais ils n'en ont pas obtenu.
Oui, les prochains mois seront difficiles sur la vaccination, a même dit le président du Conseil européen, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et les 27 ont aussi parlé hier soir du fameux passeport vaccinal.
En affichant leur désaccord, les pays du Sud, mais aussi Angela Merkel, y sont favorables pour permettre la reprise du tourisme. « Je ne l'accepterai pas », a répondu Emmanuel Macron, tant que les jeunes, notamment, n'auront pas eu accès au vaccin. En attendant, vaccin ou pas, c'est une conséquence frappante du climat d'anxiété dans lequel nous vivons depuis bientôt un an. Les naissances en France ont chuté de 13% par rapport à l'an passé. Chiffre fourni par l'INSEE, comparatif sur le mois de janvier.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
13% de bébés en moins, c'est tout simplement inédit depuis 1975.
Effectivement, il faut remonter à septembre et octobre 1975 pour observer la même chute drastique, soit quelques mois après le choc pétrolier qui signe la fin des Trente Glorieuses et du baby-boom. En janvier 2021, c'est bien sûr l'inquiétude forte face au Covid qui explique cette chute, car si on remonte 9 mois avant, nous sommes en mars, soit le moment où le nombre de décès quotidiens dus au Covid ne cesse de croître. Autres éléments d'explication, avance l'INSEE, la peur des mères de contaminer leur nouveau-né et la fermeture des centres de procréation médicalement assistée durant le confinement, naissance qui représente 3,5% du nombre total chaque année.
Et Virginie, est-ce que ce phénomène doit vraiment nous inquiéter ?
Ce qui est sûr, c'est que nous étions déjà dans une baisse tendancielle des naissances depuis 2015. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que la chute est vertigineuse. Pour le deuxième mois consécutif, en décembre 2020, elle était déjà de 7%. Seul espoir que la courbe s'inverse rapidement, comme l'explique Sylvie Lemines de l'INSEE.
Les démographes ont souvent constaté, c'est que notamment dans des périodes de crise économique, il peut y avoir un report des naissances de la part des parents, qui préfèrent attendre un environnement avec moins d'incertitudes. On peut penser que cette diminution des naissances, en fait, c'est un report des projets de parentalité. Après, ce qui est très difficile de savoir, c'est de combien de mois.
L'INSEE va donc scruter avec attention les bulletins de naissance des mois de février et mars pour comprendre si le phénomène s'atténue ou s'amplifie.
Voilà, projet vraiment abandonné ou naissance simplement reportée. On suivra ça. Merci beaucoup Virginie.
Oui, et on va essayer d'y voir plus clair même avec l'éminent démographe Hervé Lebras qui est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h08. 7 nouveaux mineurs présentés à un juge hier soir après les rixes du début de semaine en Essonne.
Cette fois pour la mort d'un ado de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine, c'est le second dossier, celui de mardi. Le parquet demande la détention provisoire pour le jeune qui a donné le coup de couteau mortel. Alors que se passe-t-il ensuite pour ces jeunes ? Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Qu'est-ce qui les attend après une mise en examen à 14 ou 15 ans ?
Eh bien, le premier enjeu, c'est de couper ces mineurs de leur milieu, empêcher tout contact entre eux pour casser le phénomène de bande le temps de la procédure. Ce sont des réponses presque systématiques dans le cadre d'infractions commises en réunion par des mineurs, comme nous l'explique Laurence Bellon, présidente du tribunal des enfants à Marseille.
Ils partent en détention, ou ils partent en centre fermé, ou ils vont dans de la famille élargie, par exemple, avec une reprise en main de la scolarisation, les soins psychiques, les soins physiques. On est dans une fonction d'apprentissage des interdits et des valeurs de la société, l'interdit de la violence, du vol, l'interdit de l'agression, plus complexe que simplement la sanction d'une infraction.
Les mineurs mis en examen sont suivis tout le temps de la procédure par des éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse avant leur procès devant un tribunal pour enfants s'ils avaient moins de 16 ans au moment des faits. Sinon, c'est la cour d'assises. Les peines encourues sont divisées par deux par rapport aux majeurs.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice de Europe 1. Dernière session de travail pour les 150 citoyens de la Convention pour le climat. Après 9 mois de travaux, ils se penchent aujourd'hui jusqu'à dimanche sur la reprise par le gouvernement de leurs propositions dans différents projets de loi. Reprise insuffisante, dénoncent déjà nombreux d'entre eux.
Ils peuvent se satisfaire en revanche de la réouverture du train de nuit entre Paris et Nice. Cette ligne historique pour ceux qui veulent éviter l'avion, avait été fermé il y a maintenant 3 ans.
Votre attention s'il vous plaît, ce train de nuit reprend du service. Premier trajet le 16 avril. La réservation de billets vient d'ouvrir et il y a déjà du monde sur le quai. Johanna Chabas.
Des billets disponibles à 25€ ou 30€ en couchette. À ce prix-là, on y va tout de suite, on ne réfléchit pas.
Romain s'est rué sur le site de réservation dès son ouverture. Éviter la voiture ou l'avion, un enjeu écologique pour ce Parisien. Mais surtout, passer la nuit dans le train, c'est selon lui le plus pratique.
Aujourd'hui, il n'y a que des trains de jour avec le TGV. Il n'y a pas moyen d'arriver le matin à Nice, si ce n'est partir la veille et prendre une chambre d'hôtel à Nice. C'est une nouvelle fenêtre qui nous permet de partir le soir et on se réveille au bord de la mer sur la Côte d'Azur.
Mais cette nuit se passera dans les anciens trains de la ligne, tout juste rafraîchis à hauteur de 100 millions d'euros. Pour ces 12 heures de trajet, pas de wifi, seulement quelques prises électriques et le masque obligatoire en permanence, même pour dormir. Nicolas Faurien du collectif Oui au train de nuit aurait aimé une proposition plus attractive pour le passager.
Ce qu'on demande à l'avenir, c'est d'investir vraiment dans une nouvelle génération de trains de nuit avec des cabines privatives avec douche et des couchettes vraiment confortables et que le gouvernement va vraiment se lancer avec des lignes transversales, pas que vers Paris et des lignes vers l'Europe.
C'est l'objectif annoncé du gouvernement. Le ministre délégué au transport parle d'une dizaine de lignes de trains de nuit d'ici 2030.
Johanna Chabas, en bref.
Le train, pardonnez-moi, l'avion, ces questions-là, et vous évoquez la Convention citoyenne pour le climat, on va en parler bien sûr avec mon invité à 8h15, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
Je suis innocent et je n'ai rien à craindre à la réponse de Gérard Depardieu aux accusations de viol. Il donne un entretien au journal italien La Repubblica et dit qu'il se présentera au tribunal le 10 mars pour réfuter ces accusations qui lui valent une mise en examen.
On termine avec les sports et Lille, éliminée de la Ligue Europa en football après sa défaite 2-1 hier soir face à l'Ajax Amsterdam.
C'était le 16e de finale retour et puis Mathieu, je ne sais pas si la flamme olympique brûle en vous.
Mais si jamais on est capable de savoir quand on aura des JO.
Si jamais c'était le cas et que vous avez un peu d'argent de côté, vous vous alignerez peut-être sur cette vente aux enchères demain à Vannes. On y vend une torche olympique des JO de Grenoble de 1968, Charles Guyard.
J'ai le grand honneur de présenter cette torche de 1968 Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble.
Et c'est ainsi que maître Jacques-Philippe Rouel en donnera samedi à Vannes le coup d'envoi des enchères pour le Lostar de la journée. Longue de 76 cm, ornée du blason aux 5 anneaux, en cuivre légèrement passé, l'objet provient d'un membre du comité d'organisation des JO 1968. Une torche donc portée par un relayeur jusqu'à la Grande Vasque, on en est certain.
Nous avons même son brûleur, on voit qu'il a été consumé puisqu'on a des traces de carbone dessus. Donc ça intéresse automatiquement.
Et cela intéresse beaucoup de monde. Sitôt l'annonce publiée, plusieurs acheteurs potentiels en France, mais aussi à l'étranger, se sont manifestés. Delphine Kahl, claire du commissaire priseur.
On pense tout de suite au musée du sport, mais on a aussi beaucoup de collectionneurs privés. Et puis on a des entreprises aussi qui veulent acquérir des objets comme ça, assez symboliques.
Et l'heureux acquéreur devra en tout cas casser sa tirelire avec un prix de départ fixé à 30 000 euros qui pourrait vite s'envoler. Quant aux malheureux perdants, ils se consoleront, évidemment, avec la devise de Coubertin, l'important, c'est de participer. Et en attendant la vente, la torche reste évidemment conservée en lieu sûr.
Alors là, on va au coffre-fort chercher la torche.
Van Charles Guyard, Europe 1.
Et on peut la mettre au coffre-fort. La dernière de ces torches s'était vendue 210 000 euros il y a 8 ans, en 2013.
Mais avoir cette torche, moi je la mets dans le jardin. Enfin, je veux dire, je ne la mets pas dans un coffre-fort. La flamme olympique dans le jardin. Ce serait bien, non?
Ça fait une certaine déco.
Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, l'éclairage éco de Nicolas Barré avec La Poste qui doit se diversifier. À quoi sert le facteur dans un monde où on ne s'écrit plus de lettres? Avant, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, on va parler de l'Arménie qui a perdu la guerre, vous savez, en novembre dernier. Bien là, le Premier ministre vient de perdre son armée.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1. Il est 7h13. Le regard international de Vincent Hervouet est... Allez, comme ça, je parie que Vincent Hervouet écrit encore quelques lettres à la main, non? Jamais?
Mais moi, je suis scandalisé parce qu'il y a un bureau de poste chez moi qui a été maintenu, mais il n'y a toujours pas Internet. Alors, bon. La numérisation, tu parles.
Et on passe le message. Le message est passé. Vincent Hervouet est avec nous au studio. L'Arménie en ébullition. Le Premier ministre dénonce une tentative de putsch. Il est descendu dans la rue avec ses partisans. Et on l'entend, l'opposition aussi manifeste pour réclamer son départ.
Oui, alors c'est un peu confus, mais il y a 3 ans, Nicole Pachignan était un héros au milieu de la foule, euphorique, et ensemble, ils venaient de chasser la vieille clique corrompue russophile qui tenait le pays depuis l'indépendance. La révolution, c'est du velours. Hier, dans la rue, le Premier ministre a retrouvé ses réflexes de tribun, le mégaphone en main, il a hurlé « L'armée doit obéir au peuple et aux élus ». Nicole Pachignan est inspiré quand il harangue, il l'est moins quand il agit. Cet homme ne se remet jamais en cause, c'est une force pour supporter la prison, conquérir le pouvoir, mais c'est une calamité pour l'exercer, le pouvoir. Hier, Pachignan, c'était le pyromane. qui appelle, qui crie au feu. Hein.
L'état-major a réclamé sa démission, il ne l'a pas inventé.
Non, aucun mouvement de troupes, mais pas un blindé non plus au carrefour. C'est pas un coup d'état, c'est plutôt un coup de gueule. C'est interdit, partout, l'armée doit rester muette. D'ailleurs, Poutine a réclamé le respect de la loi, les Américains ont renchéri, et même la Turquie, c'est un comble, a dénoncé les centurions. Pourquoi ont-ils réclamé la démission du Premier ministre ? Il y a 3 mois, les Arméniens ont été taillés en pièces par les canons de l'Azerbaïdjan, aidés de drones turcs et israéliens et de miliciens islamistes, et absolument personne ne les a secourus. Depuis 3 mois, les Arméniens remâchent cette défaite du Karabakh qui les a sidérés. Nicole Pachinian est responsable, notamment parce que ces querelles avec le Kremlin ont privé les Arméniens de leur principal allié. Les Russes ont joué les arbitres, au nom de quoi ils se sont déployés sur la ligne de cessez-le-feu, et ils sont de retour comme au temps des Soviets.
Le Premier ministre n'assume pas sa défaite.
Mardi, il dénonce les missiles russes, des pétoirs. Il annonce une remise en cause stratégique, comme s'il était prêt à rallier l'OTAN. L'état-major tombe des nues. Un vétéran très connu répond qu'il n'y connaît rien. Pachinian réclame aussitôt sa tête. En réaction, le chef d'état-major se rebiffe, 40 officiers supérieurs se solidarisent. Pachinian a perdu la capitale historique du Karabakh. Il a perdu la guerre. Il vient de perdre son armée. Ce serait ennuyeux qu'il perde aussi la tête. Le coca, c'est pas du velours, c'est de la dynamite.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h20 sur Europe 1. Et dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, on va apprendre à se réjouir dans la défaite. Si, c'est possible. Juste avant votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, l'expression du jour, c'est avoir une marotte. On dit ça de quelqu'un qui a une passion dévorante, mais au fond, ça vient d'où cette expression ? Moi, ma passion, c'est de retrouver tous les auditeurs d'Europe 1, même si à cette heure, je dois dire, ça pique un peu les yeux.
A tout de suite, il est 7h21.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h23 sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'édito sport. Et ce matin, vous voulez nous vanter les mérites des défaites en sport. La culture de l'instant dans laquelle on vit à notre époque, notamment avec les réseaux sociaux, nous pousse à tout vouloir tout de suite et surtout gagner. Mais pour vous, finalement, ça rend les victoires moins savoureuses.
Bah, est-ce qu'on aurait autant apprécié la Coupe du Monde 2018 s'il n'y avait pas eu Naïsna en 2010 ? Le trophée de 1998 aurait-il eu la même saveur si les Bleus n'avaient pas vécu le traumatisme de France-Bulgarie en 1993 ? Ce sont les défaites les plus cuisantes qui obligent les équipes à se réinventer et qui donnent toute leur valeur aux victoires. Je me suis entretenue hier avec Laurent David Samama, auteur d'un essai qui s'appelle « Éloge de la défaite » et j'ai été vaincue, obligée de reconnaître ce que nous apportent les revers. C'est pas simple de reconnaître une défaite, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on vit dans la culture de l'instant. Je poste sur Instagram et je veux des likes là, tout de suite. Et jamais je me montre sous mon mauvais jour. Hein. Et ça se ressent dans le sport. On ne veut voir Kylian Mbappé que comme le héros de Barcelone la semaine dernière. Pas l'ombre de lui-même quelques jours plus tard contre Monaco. On n'accepte que le meilleur, mais ça enlève la magie du sport. La culture de l'immédiateté, ce sont aussi les propriétaires du Paris Saint-Germain qui ont investi beaucoup d'argent et qui attendent un retour sur investissement. Ils n'ont pas envie de perdre du temps ni des matchs. Mais franchement, si le PSG remporte un jour la Ligue des Champions, ne croyez-vous pas que ce sera encore plus savoureux parce que les Parisiens ont connu les affres de la remontada de Barcelone en 2017.
Je veux pas que vous parlez.
Accepter la défaite, la digérer, voilà Mathieu, se reconstruire et les exploits deviennent moins cliniques, plus romantiques. C'est comme ça que naissent les légendes.
Dans le sport français, maintenant, c'est plutôt la culture de la gagne que l'éloge de la défaite.
Bah, ils sont loin, ces moments où le cœur de la France battait avec celui de Poulidor, le perdant magnifique. Loin aussi le temps où les Verts de Saint-Etienne défilaient sur les Champs-Élysées après une défaite en Coupe d'Europe. Et pourtant, 45 ans après, on se souvient de ces foutus poteaux carrés. Les défaites racontent une histoire et marquent une vie de sportif ou de supporter. Les victoires sont fugaces, les sportifs les vivent en apesanteur, puis ils reviennent sur terre. Alors que les défaites, bah, les obligent à tout remettre en question. Elle laisse des traces indélébiles et je trouve ça plus intéressant de voir le chemin que prennent les sportifs pour évacuer la frustration que d'analyser les statistiques et de glorifier l'exploit individuel à tout prix, même dans un sport collectif. Et ça ne veut pas dire renier la culture de la gagne. Hein. Laurent David Samama cite Michael Jordan dans son essai. « Tout au long de ma vie, j'ai échoué encore et encore. C'est la raison pour laquelle j'ai finalement réussi. Franchement, je nous souhaite à tous de perdre autant que Michael Jordan. »
Ouais, mais quel loser ce Michael Jordan. Merci Virginie Fulpin. Non, mais je veux bien perdre comme ça. Et c'est brillant Virginie, parce que vous avez réussi quand même à écrire cet édito sans mentionner France-Allemagne 82.
Ouais,
je vous voyais avec les références.
Ouais,
j'ai vu. C'est apprécié. Virginie Fulpin, merci beaucoup. L'édito sport, il est 7h20. Et comme tous les jours, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je me suis renseigné sur vous, cher Mathieu Béliard. Je sais que vous êtes féru de plantes, celles qui guérissent, celles qui apaisent, celles qui ont des vertus diverses et variées. C'est une de vos passions, c'est donc une de vos marottes. Mais d'où vient cette expression, la marotte ?
Alors, avoir une marotte, généralement, c'est avoir une passion, mais une passion assez forte, voire démesurée, excessive.
La marotte est à l'origine le bâton que les bouffons utilisaient pour divertir les rois. Habillés de vêtements à losange aux couleurs criardes, ils avaient cette marotte avec, à leur bout, une mini-figurine qui souvent les représentait. Un stratagème pour faire dire à cette petite poupée les pires horreurs, souvent drôles, une audace qui était excusée par la folie de cette marionnette. Tiens, tiens, marionnette comme marotte, c'est un dérivé de Marie, la Sainte Vierge. Ça a donné également mariole. On y retrouve la folie, mais également Mariotte. On salue Laurent, notre grand collègue,
et bon
qu'on retrouve sur Europe 1 tous les samedis à 11h. Une Mariotte, c'était une image de la Vierge au XVIe siècle. Certains idolâtraient les figurines de Marie jusqu'à la folie. Là, on retrouve à la fois la figurine et la folie. En roumain, aujourd'hui, on dit Marotta. Dans les pays anglophones, pour dire que quelqu'un a une passion obsédante, on dit « a bee in your bonnet ». Avoir une abeille dans le bonnet. Et je voulais avoir une pensée ce matin pour Graham Baker, un Australien qui a une marotte étonnante. Depuis 1984, il collectionne dans des bocaux toutes les bouloches de pulls qu'il trouve dans son nombril.
Oh, oh non,
oh, attends,
c'est pour ça que je mets un t-shirt sous mes pulls. Enfin voilà, qui, mais après tout Mathieu, qui sommes-nous pour les juger?
Oh non, moi je suis Mathieu, vous êtes Virginie, je pense qu'on peut juger là.
Mais j'espère qu'on ne conserve pas les bocaux dans la cuisine, là, ça me dégoûte.
Voilà, arrêtons là avec ce monsieur et retrouvons-nous à 16h tout à l'heure pour Historiquement Votre, Stéphane.
Oui, aujourd'hui on réunit la reine Marie de Médicis qui avait l'un des plus gros, l'un des plus beaux, l'actrice Elisabeth Taylor, qui en a collectionné autant que les amants, et celle qui les chante, Rihanna, Shine Bright Like a Diamond. Leur point commun, des croqueuses de diamants.
À tout à l'heure, 16h.
7h28, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Alors, nous avons cette goutte froide. Une goutte froide, c'est quoi? Vous avez au-dessus de notre tête, là, très très haut sur le pôle, à 10 000 mètres d'altitude, vous avez de l'air froid. Et cet air froid circule en tournant autour de la Terre. Et puis, de temps en temps, vous avez une petite bulle qui s'échappe de cet air froid, comme une balle de ping-pong, comme une balle de tennis, peu importe. Et elle vient se poser sur un pays. Et là, la bulle froide, donc cette bulle, est venue se poser sur la France. Or, sur la France, il y a de l'air doux. Résultat, cette petite bulle qui va se promener sur notre pays où elle veut, quand elle veut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prévoir, eh bien elle va faire ce qu'elle veut, mais en contact de l'air, au contact de l'air chaud, elle va donner de la pluie. Et en ce moment, cette bulle froide, eh bien, elle est sur la Lorraine, la Bourgogne, le Berry, l'Alsace, la Champagne, les Ardennes, la région parisienne où il pleut. Et toute cette petite bulle va se déplacer dans le courant de la journée, de sorte que nous aurons quelques éclaircies, et même pas mal d'éclaircies sur Paris cet après-midi. Et ça ira bien sur les côtes de la Manche, où le ciel est déjà presque dégagé, même totalement dégagé, parce que la bulle est passée très vite. Alors, le littoral de la Manche, il fera beau, le Poitou-Charentes, il fera beau, la région Rhône-Alpes, le littoral méditerranéen, l'Auvergne, des régions qui ne sont pas à l'abri d'avoir cette petite bulle dans les deux jours qui viennent. Vous voyez pourquoi il est très difficile de faire ces prévisions. C'est une affaire de bulle, alors que je vais coincer la bulle, comme ça je ne vais pas aller plus loin. Et puis je vous donne juste les températures entre 11 et 18 degrés, 11 à Lille, 18 à Marseille, 13 à Paris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachem.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Le samedi, c'est des fois le seul jour de la semaine où les gens peuvent sortir. Parce qu'il n'y a plus d'achat après 18h, donc c'est forcément du chiffre d'affaires en moins.
Dunkerque redevient ville morte à partir de ce soir et pour tout le week-end, un reconfinement lourd de conséquences pour les commerçants. À Paris, pourtant, la mairie réclame un confinement de 3 semaines. Grâce au Covid, le paiement sans contact a explosé, plus de 4,5 milliards de transactions l'an dernier. Dernière ligne droite pour la Convention citoyenne sur le climat. À partir d'aujourd'hui, elle passe au crible les réponses du gouvernement à ces propositions. Et puis, il y a 50 ans, disparaissait Fernand Contandin. Comment ça, ça ne vous dit rien? Eh bien, je vous promets que vous allez reconnaître son accent à la fin de ce journal.
Et juste après ce journal, la Toucham, Bertrand Chameroy, le démographe Hervé Lebrun, invité du tête-à-tête Europe Matin. La natalité connaît un plus bas historique. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Oui, je vais vous révéler ce que sera un des grands thèmes de l'élection présidentielle en 2022.
Juste avant, Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On le sait, la pandémie de coronavirus bouleverse nos habitudes, y compris quand il s'agit de passer à la caisse. Désormais, près de la moitié des Français utilisent ces moyens de paiement différemment, 48% selon une étude du groupement des cartes bancaires. Et c'est justement la carte bleue qui a le vent en poupe, Élise Dangean. Oui, clairement, la carte bancaire a été largement plébiscitée l'an dernier et notamment le sans contact. Cette pratique, associée à un geste barrière, s'est considérablement développée aussi grâce à l'augmentation du plafond de 30 à 50 euros. Résultat, 4,6 milliards de paiements ont été faits ainsi. C'est du jamais vu et c'était une première pour 20% des porteurs de cartes bleues. Autre évolution l'an dernier, moins de transactions mais des montants plus élevés. Loïs Moulin est le directeur du développement du groupement des cartes bancaires.
Les clients ont moins fréquenté les magasins mais ils ont fait des paniers plus importants. Et donc on a une hausse inhabituelle du panier moyen par carte bancaire sur le mois d'avril 2020, plus 7 euros, ce qui est extrêmement important. Et en moyenne, sur l'année, on a une progression de ce montant moyen de 1 euro, alors que depuis 6 ans, ce montant moyen baissait.
Les Français ont aussi beaucoup utilisé leurs cartes sur Internet. La croissance du e-commerce s'élève ainsi à près de 10%, portée notamment par la grande distribution alimentaire, avec un recours massif au drive.
Pas de reconfinement immédiat, mais des zones placées sous surveillance renforcée face à la progression du virus. Jean Castex a donné hier la liste des 20 départements concernés, principalement dans l'Est, les Hauts-de-France et la région parisienne.
À Paris, la mairie demande un reconfinement strict et total de 3 semaines pour espérer ensuite une réouverture des bars, restaurants et lieux culturels. À Dunkerque, en tout cas, pas de suspense. La ville et son agglomération se remettent sous cloche à partir de 18h ce soir jusqu'à lundi matin 6h. Les commerçants sont particulièrement inquiets. Lionel Gougelot.
Déjà pénalisé par le couvre-feu, Eric Glucksmann, gérant de 3 boutiques de prêt-à-porter en centre-ville, baissera le rideau ce soir jusqu'à lundi avec un sentiment d'impuissance.
Le samedi, c'est des fois le seul jour de la semaine où les gens peuvent sortir parce qu'il n'y a plus d'achat après 18h. Les gens, à 17h30, ils sont rentrés. Quoi. Ça devient extrêmement limité quand même. Hein.
Et donc, ce reconfinement de week-end, ce sera encore un chiffre d'affaires amputé.
Le samedi, c'est facilement 25-30% du chiffre d'affaires de la semaine. Donc, c'est évident que c'est extrêmement pénalisant et c'est forcément du chiffre d'affaires en moins.
Sur la digue de la plage de Malo, Kamal, le marchand de glace, espérait lancer sa saison pour ses vacances de février sous le soleil.
On espère les beaux jours, le printemps, les gens qui puissent se détendre, venir à la plage profiter. Et malheureusement, à cause du contexte sanitaire, ça coûte rien.
Coup dur aussi pour Camille, l'étudiante embauchée dans la boutique, qui doit faire une croix sur son job du week-end.
Et puis le week-end, c'était un peu notre seul échappatoire, quoi, venir à la mer, à Dunkerque, et puis travailler aussi, parce que c'est surtout le week-end qu'on a du monde, que les gens se libèrent. Et puis surtout que les jobs étudiants, maintenant, ça court pas les rues avec le confinement et puis toutes les mesures restrictives. Et au final, on est reconfinés.
Et l'avenir à Dunkerque est plutôt sombre, puisque selon les responsables hospitaliers, le pic épidémique ne sera pas atteint avant 2 ou 3 semaines. Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
Les suites de l'enquête après la RICS qui a coûté la vie à un adolescent de 14 ans dans l'Essonne mardi. 7 mineurs de 15 à 17 ans ont été présentés à un juge d'instruction hier. Le parquet a requis le placement en détention de l'auteur du coup de couteau mortel.
On fait le bilan du côté des 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat.
Ils se réunissent à partir de ce matin pour une ultime session après avoir travaillé durant 9 mois et remis 149 propositions à Emmanuel Macron l'été dernier. Et ce week-end, ils examineront comment ces propositions ont été traduites par le gouvernement. Côté écologiste, on pointe déjà des mesures revues à la baisse. Claudia Bertram.
Rénovation thermique des bâtiments, aviation, automobile, publicité, la copie du gouvernement est critiquée pour son manque d'ambition. L'une des principales mesures portées par la Convention, l'obligation de la rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2040. Mais le gouvernement ne retient pas l'obligation généralisée et opte pour l'interdiction de la location des passoires thermiques d'ici 2028. Autre point noir, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants, comme les SUV, se limite finalement aux seules énergies fossiles. Ou encore l'interdiction de certains vols intérieurs conditionnés par le gouvernement à une alternative de moins de 2h30 en train, quand la convention proposait 4h. Et les exemples peuvent se multiplier. Grégoire Fratil, un des membres de la convention, veut voir le verre à moitié plein, mais ne cache pas sa déception.
On va dans le bon sens. Après, parce qu'on va suffisamment vite, suffisamment loin, c'est les questions d'ambition. Alors oui, nous, aux citoyens, on a envie de dire « Bon, là, c'est bien ce qui est fait, mais il faut faire beaucoup plus. » C'est notre rôle un peu de secouer le cocotier.
Côté exécutif, on défend. Avant de se demander si on est à 100% de ce qu'ont proposé les citoyens, on constate que ça a permis de faire bouger beaucoup de lignes, avance un conseiller.
Les précisions de Claudia Bertram. Écoutez cette somme, Mathieu, à faire tourner la tête. 210 millions d'euros. C'est pas mal, hein, c'est le jackpot.
Ça m'impressionne pas du tout.
Ah oui, très bien. Ne jouez pas alors. C'est le jackpot de l'euro-million mis en jeu ce soir. Ou plutôt remis en jeu, puisque personne n'a trouvé la combinaison gagnante mardi soir.
Moi je l'avais, mais j'ai préféré laisser le, évidemment. Bon, et puis il y a 50 ans, jour pour jour, le 26 février 1971, l'un des artistes français les plus populaires du siècle dernier nous quittait.
Fernandel, avec sa gouaille, sa voix, son humour et son accent auquel il tenait particulièrement. Écoutez.
Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du Nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri et le petit village à la treille splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent à la farandole.
Et voilà, Fernandel et son sketch sur l'accent, c'est une archive Europe 1 de
1960. Waouh. Les 50 ans de la mort de Fernandel le 26 février 1971. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le début ce matin de la dernière session de la Convention citoyenne pour le climat, leur base de travail, le projet de loi climat et résilience qui se base sur leurs travaux. Alors est-ce que ce texte est à la hauteur des enjeux? La question climatique est-elle toujours une priorité pour le gouvernement? La question se pose et je la poserai à Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, invitée politique dès la matinale à 8h15. Dans un instant, le démographe Hervé Lebrun, on va parler de cette baisse historique de la natalité au mois de janvier 2021. Mais d'abord, tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous annoncer ce matin, comme Jean Castex, mais je vais quand même prendre la parole, comme Jean Castex.
A tout de suite, il est 7h38.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme. Bonjour Bertrand, comment ça va?
Écoutez Mathieu, ça va super. Non, pas du tout, je suis au bout du scotch. Je pète la forme, je sais plus. Ah, vous êtes qui? Je suis épuisé, je deviens chèvre. Ça y est, c'est bon, j'ai lâché la rampe. Comme tout le monde, je ne comprends plus rien. Hier, j'ai passé la journée à me ronger les ongles en attendant les annonces du Premier ministre. Tout le monde a bien fait monter la sauce depuis des jours, un bon déglaçage. J'avais donc tout prévu pour suivre le Castex 18h, deux cartouches de clope, trois bouteilles de rouge, du whisky pas cher au cas où ça se corse et du white spirit en cas d'annonce vraiment trash. Et puis à 18h, Jean Castex est arrivé comme une petite pâquerette. Salut, salut la compagnie. Ah bah dis donc, vous tirez une de ces tronches, on se détend les petits potes, hein. Je vais pas vous annoncer de reconfinement national, hein, calmos. Non, non, je suis juste passé faire un petit coucou, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc bah, je trouvais ça sympatoche. Je vous ai ramené 2-3 PowerPoints histoire de vous occuper. Regardez, il y a plein de couleurs, il y a du jaune, du rouge, du bleu, des courbes et tout. C'est joli les courbes, hein. Concernant la situation, bah écoutez, pour être très concret, on verra. Voilà. À ce jour, nous n'excluons pas de renforcer l'hypothèse de devoir à un moment donné réfléchir à l'éventualité de prendre des décisions que nous pourrions peut-être mettre en application si le contexte l'exige. Et si vraiment ça dégénère, rassurez-vous, nous ne reconfinerions pas tout le pays. Non, non, nous procéderions à des confinements locaux dans 96 départements. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Vous avez vu, j'ai laissé un peu pousser ma houppette là sur le devant, ouais. Bon, c'est un test, hein, mais j'aime bien. Voilà, bah maintenant je me tiens à votre disposition pour ne pas répondre à vos questions. On se revoit dans 15 jours ? Super ! Et 2 heures après, la mairie de Paris demandait à reconfiner la capitale pour 3 semaines avec la perspective de tout rouvrir ensuite. Bar, resto, lieux culturels dans 3 semaines. Ah, c'est bon de rire parfois. Je deviens complètement zinzin, Mathieu. Ce qu'on vit a autant de sens qu'une pub pour parfum. J'ai des choses à te dire. C'est grave. Je te reconfine. Non, je sais pas. Si, localement. Attends. Peut-être quand ? Hier ou demain ? Fermons pour rouvrir. Mortadelle, réfléchissons. Accélérons lentement. Plus vite. Il est urgent de prendre le temps. Inintelligible. La nouvelle fragrance. Par Jean Castex. Covid-19. Allez, bon week-end Mathieu. Perso, je vais aller la boire, moi, la bouteille de parfum. Je vous sers un shot.
Merci Bertrand Chameroy à la touche âme tous les matins. À 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand. J'allais dire à lundi, non, à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel.
Tout
dans
à fait.
Culture Média. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Moins 13% de naissances en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. C'est inédit depuis 1975. L'INSEE détaille cette chute vertigineuse des naissances. Le contexte, c'est celui du Covid-19. Alors, faut-il s'en inquiéter? Est-ce vraiment la pandémie d'ailleurs qui est en cause ou est-ce qu'il y a une tendance de fond? Mon invité ce matin, c'est le démographe Hervé Lebrun, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Également directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques. Bonjour Hervé Lebrun.
Bonjour.
On a besoin d'y voir plus clair. Et vous êtes là pour ça, 9 mois avant le premier confinement. Quand il n'y a pas d'électricité ou de télé, par le passé, on avait tendance à imaginer avec le sourire qu'on connaîtrait un mini baby boom. Là, c'est tout l'inverse.
Oui, à chaque, je dirais pas catastrophe, mais à chaque problème, on dit la même chose. On l'avait dit à propos de la panne, la grande panne d'électricité de New York. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit.
Ah
parce
bon
que, oui, on l'a vu pour New York, et là, on le vérifie, parce que dans une situation de plutôt de crainte, de panique, d'incertitude, ce n'est pas que la fécondité baisse, si vous voulez, mais c'est que les couples remettent à un peu plus tard la naissance d'un enfant. Donc,
je le disais, hein, il y a 9 mois pile, on était en plein premier confinement, et je parlais du pic pétrolier hein, des années 70. On retrouve ces baisses de natalité dans d'autres crises, la crise de 29 par exemple.
Assez peu, hein, la crise. Curieusement, là, parce qu'en France, la crise de 29, elle a fait long feu, elle a mis du temps à se déclencher. Même d'ailleurs pour la crise pétrolière, c'est en fait, les conceptions ont commencé à baisser seulement au début de 1975, après un an, quand on s'est aperçu que le chômage augmentait rapidement, que la crise durait. Il n'y a pas eu un effet, au fond, flash comme on a maintenant avec le confinement. Là, vraiment, la mesure de confinement a pesé pour beaucoup.
Alors, ces enfants qui ne sont pas nés, c'est toujours bizarre à dire comme ça, ces enfants qui ne sont pas nés. Alors, on entend plusieurs choses. Il y a la peur de contaminer son bébé à ce moment-là, 9 mois avant, je vous le rappelle. La fermeture des centres de PMA aussi pendant le confinement, ça joue peut-être. Est-ce que ce sont des projets familiaux reportés ou annulés, Hervé Lebras, dans ce cas-là ?
Presque sûrement, c'est des projets reportés. C'est très rare, si vous voulez, qu'il y ait un événement brusque qui modifie des tendances de long terme comme la fécondité. Les changements de régime, si on peut dire, de la fécondité, c'est une fois tous les 20 ou 30 ans.
Parce qu'il y a une baisse, si on regarde, si on dézoome, si j'ose dire, par rapport au Covid, il n'y a pas que ça, il y a une baisse tendancielle depuis 2015-16.
Oui, même un peu avant, mais c'est une baisse lente. On était à peu près à 2 enfants en moyenne par femme vers 2010. Et puis là, maintenant, on est à 81-82. Mmh. Donc oui, il y a une baisse tendancielle. À peu près 2% était prévu comme baisse pour cette année. Et c'est une baisse qui, justement, là, risque de durer. Parce qu'après tout, on est à la plus haute fécondité de l'Union européenne. Donc c'est logique qu'à
un
moment
ou
un autre...
La France et l'Irlande, hein, traditionnellement très haut en termes de...
Oui, traditionnellement, bon, l'Irlande, oui, mais la France, tout au long de son histoire, la France était en queue de peloton.
Ah bon,
tout le 19e siècle.
J'ai l'impression d'avoir toujours entendu ces dernières années que la France est championne, mais c'est peut-être une question...
Non, à partir des années 50, si vous
avec
voulez.
Avec beaucoup de politesse, c'est sûrement une question de génération, Hervé Lebras. Là, on est dans la même tendance que nos voisins, cela dit.
On glisse vers la tendance de nos voisins, ils sont quand même plus bas, hein. Ils sont, disons, à 1,5, l'Allemagne est à 1,45. Les pays latins sont nettement plus bas, ainsi que les pays de l'Est, et puis les pays du Nord sont à peu près à notre niveau, l'Angleterre, les pays scandinaves. Donc, logiquement, on pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un baby-boom ou une reprise. Donc, on devrait glisser lentement. Mais ce n'est pas l'incident du confinement qui va changer grand-chose.
Alors, je voudrais profiter de votre présence pour évoquer l'autre extrémité de la pyramide des âges, Hervé Lebras. Un an d'épidémie de coronavirus, plus de 85 000 morts en France sur l'année 2020. Est-ce qu'on mesure un choc Covid sur la mortalité ?
Oui, alors... Si on prend les décès, il y a un choc Covid, mais en termes de mortalité générale, ce choc ne sera pas très fortement ressenti. Quand l'INSEE a donné les chiffres d'ailleurs, bien qu'en 2020, la mortalité ait augmenté de 7,3%, ce qui est beaucoup, l'espérance de vie ne diminuera qu'une demi-année.
L'espérance de vie qui diminue, ce n'est pas anodin non plus.
Oh, c'est pas anodin, ça c'est arrivé auparavant. Il y a pas si longtemps, il me semble que ça doit être en 2014, elle a dû diminuer de un tiers d'année. Donc c'est des mouvements qui sont quand même petits. Il faut prendre la mesure que si on prend 1946, donc on est sorti de la guerre. Entre 1946 et maintenant, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Donc, perdre une demi-année, oui, c'est...
Mais ça ne veut pas dire que les bébés qui naissent maintenant vont vivre 6 mois de moins, forcément.
En plus de ça, non, parce que quand on entre dans le détail, le calcul de l'espérance de vie, il se fait en supposant que le risque de décès à chaque âge est le même que celui qu'on observe en 2020. Donc c'est une espérance de vie calculée dans l'idée qu'il y aurait la mortalité par Covid chaque année jusqu'à la mort de ce bébé.
Oui, c'est dur de
ce
le prévoir.
Complètement... En revanche, si on pense que ça dure une année seulement, l'espérance de vie perdue pour un bébé, c'est 3 semaines et demie.
Vous relativisez, Hervé Lebrun, en fait, les conséquences de la pandémie sur la démographie, sur la mortalité en particulier.
Oui, alors il y a des conséquences évidentes qu'on a sous les yeux. Je crains que les conséquences soient beaucoup plus fortes, et ce que disent un certain nombre de médecins, sur la morbidité, sur ce qu'on appelle le post-Covid, c'est-à-dire sur les séquelles pour une partie importante des personnes qui ont été atteintes. C'est là qu'est, je pense, le gros problème, parce que la mortalité elle-même... Je vais vous donner un autre exemple. L'INSEE calcule que... il y a eu 45 000 décès de plus en 2020 par rapport à 2019. Quand vous regardez les décès par Covid, c'est 65 000 sur la même période. Alors vous me direz, d'où vient la différence ? Ben, il se trouve qu'il y a eu moins de mortalité sur la route.
Ben oui.
Il y a eu moins de mortalité par la grippe. Il n'y a eu que 4 000 au lieu, disons, en moyenne de 10 000. Et puis, même si on note ces 1 000 et ces 6 000 en moins, il y a 18 000 encore en moins. Et dans ce cas-là, on peut penser qu'en fait, il y a des décès qui ont été accélérés par le Covid.
Mais
c'est des personnes très âgées,
même,
en mauvais état, et qui seraient de toute façon décédées. Ça a simplement avancé quelques décès, comme ça avait été le cas d'ailleurs lors de la canicule.
Merci Hervé Lebrun, c'est toujours passionnant la démographie, votre science, mais on a besoin de vous pour y voir plus clair dans toutes ces courbes et ces pyramides. Le démographe Hervé Lebrun était mon invité, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Il est 7h50 sur Europe 1. À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1. Et donc bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Après Marine Le Pen, c'est au tour d'un autre candidat potentiel à la présidentielle de prendre position dans vos colonnes, l'Opinion, sur la dette. Cette fois, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble.
Oui, et représentant de l'aile gauche des écolos. Et vous allez voir, il n'y va pas par quatre chemins. Rembourser la dette, selon lui, c'est... se soumettre à l'empire ultralibéral, aux puissances de l'argent et aux dogmes sur la dette. Et, ajoute-t-il, tout ça mène à la casse du service public, à l'abandon des plus fragiles et à l'inaction climatique. Bon, au fond, dans l'esprit d'Éric Piolle, Macron, Le Pen, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. En tout cas, cette attaque politique virulente le prouve clairement. Cette affaire de la dette Covid sera un des grands marqueurs de la prochaine campagne présidentielle.
Avec quel type de clivage, Nicolas ? Est-ce qu'on va retrouver la césure droite-gauche ?
À gros traits, oui, ce sera le cas, mais avec pas mal de nuances quand même. Hein. En fait, une partie de la gauche estime qu'il faudra rembourser cette dette, celle-là comme les autres dettes de l'État. C'est la gauche, disons, gestionnaire, l'aile plutôt social-démocrate. Et plus on va vers la gauche, plus on trouve d'opposition au remboursement. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Bon, à droite aussi, on trouve le même genre de division, mais cette fois entre libéraux ou gaullistes de pure extraction qui pensent que l'État ne peut pas manquer à sa parole, et puis une autre, elle de la droite, plus populiste, celle-là, et qui prétend qu'il faut se libérer de certains carcans pour, par exemple, rembourser sur, pourquoi pas, sur un siècle, ce qui est évidemment une fiction.
Et justement, chez les écologistes, est-ce que la position d'Éric Piolle est majoritaire ?
Chez les militants, sûrement, oui. Chez les électeurs, c'est plus douteux. Yannick Jadot, qui campe une ligne écolo moins en rupture qu'Éric Piolle, il est plus prudent. Pour lui, parler de remboursement ne sert à rien aujourd'hui, puisque les taux d'intérêt sont super bas. C'est une façon de botter en touche, ou en tout cas de concilier plus large.
Mais vous disiez que le remboursement de la dette sera un marqueur de la prochaine campagne présidentielle ?
Oui, parce que le choix politique de rembourser ou pas la dette orientera tout le programme économique, social, budgétaire, fiscal des candidats. Quels moyens financiers doit conserver l'État ? Quelles actions sociales sont encore possibles si on rembourse ou pas ? Quels impôts créer ou pas ? Avec, en toile de fond, un autre marqueur fort des élections de 2022, la jeunesse. Faut-il se désendetter rapidement pour ne pas lui laisser, au-delà de toutes ses difficultés actuelles, un fardeau de plus à l'avenir ? Et si on ne rembourse pas, alors comment trouver ensuite des créanciers pour payer année après année notre modèle, leur modèle social, nos dépenses sociales, nos déficits sociaux ? En 2017, le débat s'était installé autour de la vision libérale initiée par François Fillon. Cette fois, parions-le, la dette sera de toutes les discussions.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Et à 7h55, comme tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, je reçois Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Et c'est Emmanuel Macron qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Béliard, bonjour monsieur Cabrol et Je salue Monsieur Bétou. Dites-lui la prochaine fois qu'il fait sa chronique d'éviter de la faire depuis ses toilettes, ça t'entend. Bonjour à Barbara qui doit nous écouter sur son vélo, hein, l'écolo, hein, Barbara Pompili, sur sa bicyclette, je suppose, en bambou biologique, bien sûr, qui trouve que c'est très bien, vous l'avez entendu, de donner des menus sans viande aux enfants à la cantine. Hein, c'est la seule voix discordante dans le gouvernement. Hein, Barbara, qu'est-ce que tu as, excuse-moi de l'interpeller, mais qu'est-ce que tu as, Barbara, contre la viande à la cantine? Hein, qu'est-ce que tu as contre les cordons bleus? C'est délicieux, les cordons bleus. Je suis bien placé pour le savoir, Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée que vous avez reçu hier, m'en fait souvent. Je sais qu'il ne vous l'aurait jamais avoué en interview. Guillaume Gomez est très professionnel. Vous savez, c'est l'agent secret des fourneaux, le 007 des œufs à la coque. Hein, le gars qui classe secret défense pendant 30 ans des menus qu'il a fait il y a 15 ans. Bon, enfin, bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je le salue bien. Barbara, pourquoi, je le dis, tu veux imposer aux enfants de manger du poisson ou des légumes? Sois cohérente. Si la nature, Monsieur Béliard, je vous prends un témoin, voulait à ce point qu'on mange des légumes, la nature ne leur aurait pas donné un goût aussi affreux.
Oh.
Hein, j'espère que vos enfants ne nous écoutent pas, Monsieur Béliard, parce que là, je viens de leur donner un argument en béton pour pas en bouffer.
C'est signé Nicolas Cantelou qui conseille l'invité politique de la matinale tous les jours. 8h15, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, et Nicolas Cantelou, la revue de presse, c'est à 8h45. 7h58 sur Europe 1. La météo avec Laurent Cabrol.
Ça se gâte, mais ça s'est gâté un petit peu hier, ça se gâte aujourd'hui avec de la pluie pour certains d'entre nous sur la Lorraine, la Bourgogne, le Berry, l'Alsace, la Champagne, les Ardennes, la région parisienne. Dans certaines de ces régions, bien le temps ne sera pas humide toute la journée. Sur Paris, ça va s'arranger cet après-midi. Et puis ailleurs, ma foi, c'est pas trop mal. Quelques ondées sur la vallée de la Loire, des brumes dans le sud-ouest, pas mal de brouillard d'ailleurs à l'heure où nous parlons. Hein, il y en a du côté d'Agen, de Tarbes, etc. Et puis pour certains encore, les derniers, ceux qui sont peut-être les plus nombreux, littoral de la Manche, tous ceux qui habitent près de la Manche, le Poitou-Charentes, la Vendée, la région Rhône-Alpes, le bassin de la Méditerranée, sans vent, l'Auvergne, toutes ces contrées seront sous un soleil omniprésent. Bande de vénards, voilà. Donc c'est bien, et puis les températures en baisse parce que nous avons cette fameuse goutte froide sur laquelle je reviendrai à 8h30 parce que je ne m'en lasse pas. J'espère que je ne vous lasse pas à vous non plus. 2 degrés à Brest, 3 à Lyon, 4 à Rennes, 6 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris ce matin, hein, 10 à Cognac. Et dans l'après-midi, entre 11 et 13 au nord et entre 15 et 18 au sud. 17 à Lyon, je vous la fais à la louche. 17 à Lyon, c'est 17-18. Hein. Marseille, il fera très chaud, enfin très doux. 18 pour la saison, bien sûr. Demain et après-demain, ça sera moyen-moyen. Enfin, demain, moyen. Dimanche, mieux. Et la semaine prochaine, pour ceux qui partent en vacances, c'est pas mal, pas mal.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Au revoir.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Installez-vous à l'écoute d'Europe 1. On écoute le monde changer.